Un projet de lettre. J'essaye de t'écrire, bien qu'à la vérité, il n'y ait rien à dire après un départ nécessaire. J'essaye pourtant, je crois que je dois le faire, parce que j'ai vu la sainte au Panthéon, la solitaire et sainte femme, et le toit, et la porte, et au-dedans, la lampe avec son modeste cercle de lumière, et dehors, la ville endormie, et le fleuve, et les lointains au clair de lune. La sainte veille sur la ville endormie. J'ai pleuré parce que tout cela était si inattendu. J'ai pleuré là, devant, je n'en pouvais plus. Je suis à Paris, ceux qui l'apprennent se réjouissent, la plupart m'envient, ils ont raison. C'est une grande ville, grande et pleine d'étranges tentations. Je crois qu'il n'est pas possible de l'exprimer autrement. J'ai succombé à ces tentations et il en est résulté certaines transformations, sinon de mon caractère, du moins de ma conception générale de la vie et dans tous les cas de ma vie elle-même. Une compréhension très différente de toute chose s'est formée en moi sous ces influences. Certaines différences existent qui me séparent des hommes plus que toutes mes expériences antérieures. Un monde transformé. Une vie nouvelle, pleine de significations nouvelles. J'ai un peu de peine en ce moment parce que tout est trop nouveau. Je suis un débutant dans mes propres conditions de vie. Ne pourrais-je une fois voir la mer? Oui, mais figure-toi, je m'imaginais que tu pourrais venir. Aurais-tu pu me dire s'il y a un médecin? J'ai oublié de m'en informer. D'ailleurs, je n'en ai plus besoin à présent. Te rappelles-tu le poème inouï de Baudelaire, Une charogne? Il se peut que je le comprenne à présent. La dernière strophe exceptée, il était dans son droit. Que devait-il faire après une telle expérience? Il lui incombait de voir parmi ces choses terribles, parmi ces choses qui semblent n'être que repoussantes, ce qui est, ce qui seul compte parmi tout ce qui est. Ni choix ni refus ne sont permis. Crois-tu que ce soit par hasard que Flaubert ait écrit son Saint-Julien l'Hospitalier? Il me semble que là est le point décisif. Se surmonter jusqu'à se coucher à côté d'un lépreux, jusqu'à le réchauffer à la chaleur intime des nuits d'amour. Et cela ne peut que bien finir. Ne va pas croire surtout que je souffre ici de déception, bien au contraire. Je m'étonne quelquefois de la facilité avec laquelle j'abandonne tout ce que j'attendais pour le réel, même lorsqu'il est pire. Mon Dieu, s'il était possible de le partager avec quelqu'un, mais serait-il alors, serait-il encore? Non, car il n'est qu'au prix de la solitude. L'existence du terrible dans chaque parcelle de l'air. Tu le respires avec sa transparence, et il se condense en toi, durcit, prend des formes pointues et géométriques entre tes organes. Car tous les tourments et toutes les tortures accomplies sur les places de grève, dans les chambres de la question, dans les maisons de fous, dans les salles d'opération, sous les arcs des ponts en arrière-automne, tous et toutes sont d'une opiniâtre indébilité. Tous subsistent et s'accrochent, jaloux de tout ce qui est, à leur effrayante réalité. Les hommes voudraient pouvoir en oublier beaucoup. Leur soleil lime doucement ces sillons du cerveau, mais des rêves le repoussent et en retracent le dessin. Et il s'éveille, haletant, et laisse se fondre dans l'obscurité la lueur d'une chandelle et boive comme de l'eau sucrée cette demi-clarté à peine calmante. Car hélas, sur quelle arête se tient cette sécurité? Le moindre mouvement, et déjà le regard plonge au-delà des choses connues et amies, et le contour, tout à l'heure consolateur, se précise comme un rebord de terreur. Garde-toi de la lumière qui creuse davantage l'espace. Ne te retourne pas pour voir si nulle ombre ne se dresse d'aventure derrière toi comme ton maître. Mieux eût valu rester dans l'obscurité, et ton cœur illimité aurait essayé de devenir le cœur lourd de tout l'indistinct. Voici que tu t'es repris en toi, que tu te sens prendre fin dans tes mains, et que d'un mouvement mal précisé, tu retraces de temps en temps le contour de ton visage. Et il n'y a presque pas d'espace en toi, et tu te calmes presque à la pensée qu'il est impossible que quelque chose de trop grand puisse se tenir dans cette étroitesse, et que l'inouï même doit devenir intérieur et s'adapter aux circonstances. Mais dehors, dehors, tout est sans mesure. Lorsque le niveau monte au dehors, il s'élève aussi en toi, non pas dans les vases qui sont en partie en ton pouvoir, ou dans le phlegme de tes organes les plus impassibles, mais il croît dans les vaisseaux capillaires, aspiré vers en haut jusque dans les derniers embranchements de ton existence infiniment ramifiée. C'est là qu'il monte, c'est là qu'il déborde de toi, plus haut que ta respiration. Et dernier recours, tu te réfugies comme sur la pointe de ton haleine. Ah, et où ensuite? Où ensuite? Ton cœur te chasse hors de toi-même, ton cœur te poursuit, et tu es déjà presque hors de toi, et tu ne peux plus. Comme un scarabée sur lequel on a marché, tu coules hors de toi-même, et ton peu de dureté et d'élasticité n'a plus de sens. Ô nuit sans objet, ô fenêtre sourde au dehors, ô porte close avec soin, pratique venue d'ancien temps, transmise, vérifiée, jamais entièrement comprise. Ô silence dans la cage de l'escalier, silence dans les chambres voisines, silence là-haut, au plafond. Ô mère, ô toi unique, qui t'es mise devant tout ce silence autant que j'étais enfant, qui le prend sur toi, qui dit « Ne t'effraie pas, c'est moi », qui a le courage en pleine nuit d'être le silence pour ce qui a peur, pour ce qui périt de peur. Tu allumes une lumière et le bruit déjà, c'est toi. Tu la soulèves et tu dis « C'est moi, ne t'effraie pas ». Et tu la déposes lentement. Et il n'y a pas de doute, c'est toi. Tu es la lumière autour des objets familiers et intimes qui sont là, sans arrière-sens, bons, simples, certains. Et lorsque quelque chose remue dans le mur ou fait un pas dans le plancher, tu souris seulement, tu souris, souris, transparente sur un fond clair, au visage angoissé qui te sonde comme si tu ne faisais qu'un avec le mystère, comme si tu étais dans le secret de chaque son étouffé, d'accord avec lui et de concert. Un pouvoir égale-t-il ton pouvoir dans le royaume de la terre? Vois, les rois eux-mêmes sont raidis sur leurs couches, et le conteur n'arrive pas à les distraire. Sur les seins adorés de leur maîtresse la plus chère, la terreur s'insinue en eux et les fait tremblants et impuissants. Mais toi, tu viens et tu tiens l'immensité derrière toi et tu es tout entière devant elle. Non pas comme un rideau qu'elle pourrait soulever ici et là, non, comme si tu l'avais rattrapée à l'appel de celui qui avait besoin de toi. Comme si tu avais devancé de beaucoup tout ce qui peut encore arriver et que tu n'eusses dans le dos que ta course vers lui, ton chemin éternel, le vol de ton amour. Le mouleur devant la boutique duquel je passe tous les jours a accroché deux masques devant sa porte. Le visage de la jeune noyée que l'on moula à la morgue parce qu'il était beau, parce qu'il souriait de façon si trompeuse, comme s'il savait. Et en dessous, l'autre visage qui sait, ce dur nœud de sens tendus à rompre, cette implacable condensation d'une musique qui sans cesse voudrait s'échapper. Le visage de celui à qui un dieu a fermé l'ouïe pour qu'il n'y ait plus de son hors les siens, pour qu'il ne soit pas égaré par le trouble éphémère des bruits. Lui qui contenait leur clarté et leur durée, pour que seul l'essence inapte à saisir le son ramène le monde vers lui, sans bruit, un monde en suspens, en expectative, inachevé, d'avant la création du son. Finisseur du monde, ainsi que ce qui tombe en pluie sur la terre et les eaux, qui négligemment, par hasard, se dépose, se relève de partout, moins visible et joyeux d'obéir à sa loi, et monte et flotte et forme le ciel. De même, s'éleva hors de toi la montée de nos chutes, et de musique envoûta le monde. Ta musique, elle eût pu être autour de l'univers, non pas autour de nous. On-tu construit un orgue dans la Thébaïde, et un ange t'aurait conduit devant l'instrument solitaire, entre les montagnes du désert où reposent les rois, des Étaïrs et des Anachorètes. Et brusquement, il aurait pris son vol, de peur que tu ne pusses commencer. Et alors tu te serais répandu à flots, fluvial, dans le vide, restituant à l'univers ce que seul l'univers peut supporter. Au loin, les Bédouins se seraient enfuis sur leurs chevaux, superstitieusement. Mais les marchands se seraient jetés par terre, aux confins de ta musique, comme si tu étais la tempête. Et seuls quelques rares lions, la nuit, auraient rôdé, très loin, autour de toi, effrayés par eux-mêmes, menacés par leur sang agité. Car qui à présent te retirera des oreilles cupides? Qui les chassera hors des salles de concert, ces véniels dont l'ouïe stérile se prostitue et ne reçoit jamais? Voici de la semence qui rayonne, et ils se tiennent en dessous d'elle comme des filles, et ils jouent avec elle, ou bien la laissent tomber comme la semence d'Onane, tandis qu'ils sont couchés dans leurs contentements inachevés. Mais si jamais, maître, un chaste à l'oreille vierge était étendu contre ton son, il mourrait de félicité, ou il concevrait l'infini, et son cerveau fécondé éclaterait de trop de naissances. Je ne le néglige pas, je sais qu'il y faut du courage, mais supposons un instant que quelqu'un le possède, ce courage de luxe, de les suivre, pour enfin savoir à jamais, car qui de nouveau saurait oublier ou confondre cela, où ils finissent par se recroqueviller, et ce qu'ils font du restant de la longue journée, et où ils dorment la nuit. C'est cela surtout qu'il s'agirait d'établir, s'ils dorment. Mais il n'y faudrait pas que du courage, car ils ne vont ni viennent comme d'autres gens que suivre serait un jeu d'enfant. Ils sont là, et ils n'y sont plus, posés et enlevés comme des soldats de plomb. On les rencontre en des endroits un peu perdus, mais point du tout cachés. Les buissons s'effacent, le chemin s'incurve légèrement autour du gazon. Les voici, et ils ont autour d'eux un large espace transparent, comme s'ils étaient sous une verrière. Tu pourrais les prendre pour des promeneurs pensifs, ces hommes sans apparence, de forme si menue et si modeste sous tous les rapports. Mais tu te trompes. Vois la main gauche, comme elle s'étend vers la poche oblique du vieux par-dessus, comme elle trouve et retire, comme elle tient en l'air le petit objet d'un geste gauche et provoquant. Une minute à peine, et déjà deux ou trois oiseaux sont là, des moineaux curieux qui s'avancent en sautillant. Et si l'homme réussit à se conformer à leur très précise conception de l'immobilité, il n'y a pas de raison pour qu'il ne s'approche pas davantage. Et enfin, l'un s'élance et volait un instant nerveusement à la hauteur de cette main, dont les doigts sans prétention et qui renonce visiblement, tant de Dieu sait quel brin de pain douceâtre et usé. Et plus nombreux sont les hommes qui, à distance respectueuse, bien entendu, s'assemblent autour de lui, moins il paraît avoir avec eux de traits communs. Il est là comme un chandelier qui achève de brûler, et lui encore avec le reste de sa mèche, et en est tout chaud et n'a jamais bougé. Et comment il attire, et comment il les charme, c'est ce dont tous ces petits oiseaux ignorants ne sauraient naturellement pas juger. N'est-elle spectateur? Et si on le laissait attendre assez longtemps, je suis certain qu'un ange tout à coup viendrait et surmonterait son dégoût et mangerai cette vieille bouchée de pain douceâtre dans cette main rabougrie. Mais comme toujours, les gens empêchent que cela arrive. Ils font en sorte que seuls des oiseaux viennent. Ils trouvent cela suffisant et ils affirment qu'ils n'attendent rien d'autre. Qu'attendrait-elle donc, cette vieille poupée fatiguée par les pluies, plantée en terre un peu de biais comme les anciennes figures de proue dans les petits jardins de chez nous? A-t-elle été dressée, elle aussi, quelque part à l'avant de la vie, à l'endroit où le mouvement est le plus rapide? Est-elle ainsi fanée parce qu'elle fut jadis bariolée? Veux-tu le lui demander? Aux seules femmes, ne demande rien lorsque tu les vois nourrir les oiseaux. Tu pourrais même les suivre, rien de plus facile, car elles ne le font qu'en passant. Mais laisse-les en paix, elles ne savent pas comment cela arrive. Tout à coup, elles ont beaucoup de pain dans leur sacoche, et une main, surgit de leur mantille usée, entend de grands morceaux qui sont un peu mâchés et humides. Il leur est doux de penser que leur salive voyage dans le monde, que les petits oiseaux volent avec cet arrière-goût, encore que naturellement, ils ne tardent pas à l'oublier. Et voici que j'étais devant tes livres de têtus, que j'essayais de les imaginer à la manière de ces étrangers qui ne respectent pas ton unité, de ces satisfaits qui se sont taillés une part dans toi. Car je ne connaissais pas encore la gloire, cette démolition publique d'un qui devient, et dans le chantier duquel la foule fait irruption en déplaçant les pierres. Jeune homme quelque part, en qui monte je ne sais quoi qui te fait frémir, profite de ton obscurité. Et si te contredisent ceux qui font fi de toi, et si t'abandonnent tout à fait ceux avec qui tu fréquentais, et s'ils veulent t'extirper à cause de ta chère pensée, qu'importe ce danger visible qui te concentre en toi-même auprès de la maligne hostilité, plus tard, de la gloire qui te rend inoffensif en tes pendants. Ne demande à personne de parler de toi, même pas avec dédain. Et si le temps passe, et que tu t'aperçoives que ton nom circule parmi les hommes, n'en fais pas plus de cas que de tout ce que tu trouves dans leur bouche. Pense qu'il est devenu mauvais et rejette-le. Prends-en un autre, n'importe lequel, pour que Dieu puisse t'appeler en pleine nuit et tiens le secret à tous. Ô toi le plus solitaire, à l'égard de tous, combien vite ils t'ont rejoint en se servant de ta gloire. Eux qui si récemment étaient encore contre toi de fonds en comble, voici qu'ils te traitent comme leur égal. Et ils portent tes mots avec eux dans les cages de leur présomption, et ils les montrent sur les places et les excitent un peu du haut de leur sécurité. Tout est fauves enchaînés. Et je te lus seulement lorsqu'ils s'échappèrent et m'attaquèrent dans mon désert, les désespérés. Désespéré comme tu finis par être, toi-même dont la route est mal dessinée sur les cartes. Comme une fêlure, elle traverse le ciel, cette hyperbole sans espoir, qui ne s'incline qu'une seule fois vers nous et s'en éloigne de nouveau, terrifiée. Que t'importait qu'une femme restât ou partît, que le vertige saisît quelqu'un et la folie quelque autre, que les morts fussent vivants, et que les vivants pussent sembler morts. Que t'importait tout cela? Tout cela était si naturel pour toi. Tu le franchissais comme on traverse un vestibule, sans t'arrêter. Mais tu t'attardais et te baissais, là où notre devenir bout, se précipite et change de couleur au-dedans. En un tréfonds où personne n'avait jamais pénétré, une porte s'était ouverte devant toi. Et voici que tu étais près des cornues, sous les reflets de la flamme. Là où tu n'emmenas jamais personne, méfiant, c'est là que tu t'assis et que tu discernas des différences. Et c'est là, parce que c'était la force de ton sang de révéler et non pas de former ni de dire, que tu as pris cette décision inouïe de grossir à toi seul ce fait tout menu. Et que tu ne distinguais d'abord qu'au fond de tes éprouvettes, de telle sorte qu'il apparut à des milliers d'hommes, immense devant tous. Et ton théâtre fut. Tu ne consentis pas à attendre que cette vie, presque sans réalité dans l'espace, condensée par le poids des siècles en fines gouttelettes, fut décelée par les autres arts, qu'elle fut peu à peu rendue visible au petit nombre, et que peu à peu, ceux-là qui communiraient dans cette connaissance finissent par désirer de se voir ensemble confirmer ces rumeurs augustes dans la parabole de la scène ouverte sous leurs yeux. Non, tu ne voulus pas attendre si longtemps. Tu étais là, et ces choses à peine mesurables, un sentiment qui montait d'un demi-degré, l'angle de réfraction d'une volonté aggravée d'un poids à peine sensible, cet angle que tu devais lire de tout près, le léger obscurcissement d'une goutte de désir et cette ombre d'un changement de couleur dans un atome de confiance. Cela, il fallut que tu l'établisses et que tu le retinsses. Car c'est dans de tels phénomènes qu'était à présent la vie, notre vie, qui s'était glissée en nous, qui s'était retirée vers l'intérieur si profondément qu'on ne pouvait plus se livrer sur elle qu'à des suppositions. Tel que tu étais, révélateur, poète tragique et sans époque, tu devais d'un seul coup transposer ces mouvements capillaires en les gestes les plus évidents, en les objets les mieux présents. Et tu entamas alors cet acte de violence sans exemple, ton œuvre, vouée de plus en plus impatiemment, de plus en plus désespérément, à découvrir parmi les choses visibles les équivalents de tes visions intérieures. Il y avait là un lapin, un grenier, une salle où quelqu'un allait et venait. Il y avait un bruit de vitres dans la chambre voisine, un incendie devant les fenêtres, il y avait le soleil, il y avait une église et un vallon rocheux qui ressemblait à une église. Mais cela ne suffisait pas. Les tours finirent par entrer et des montagnes entières, et les avalanches qui ensevelissent les paysages comblèrent la scène chargée de choses tangibles pour l'amour de l'insaisissable. Et alors, il arriva que tu fus à bout de ressources. Les deux extrémités que tu avais pliées jusqu'à les joindre rebondirent et se séparèrent. Ta force démente s'échappa du jonc flexible, et ce fut comme si ton œuvre n'avait jamais été. Qui, autrement, comprendrait qu'à la fin tu n'eusses plus voulu quitter la fenêtre, têtu comme tu l'as toujours été? Tu voulais voir les passants, car la pensée t'était venue que l'on pourrait peut-être un jour faire quelque chose d'eux, si l'on se décidait à commencer.